Mesdames, Messieurs, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Je commencerai d'abord par rappeler les faits. Il s'agit en effet d'une opération d'une très grande complexité, puisqu'elle visait la libération d'otages. Celle-ci a été menée dans la nuit du 9 au 10 mai, au nord du Burkina Faso. Au cours de cette opération, deux militaires de l'opération Barkhane ont perdu la vie. Le chef d'état-major des armées vous en parlera plus en détail dans quelques instants. Ce dont il s'agit, c'est d'un véritable exploit. C'est une opération d'une rare difficulté que peu d'armées au monde sont capables de mener. Les otages libérés vont pouvoir retrouver leur liberté et leurs proches. C'est avec fierté que je félicite tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Et c'est aussi avec une très profonde tristesse et une très grande émotion que nous avons appris la mort de deux commandos marines, deux militaires exceptionnels. Ils sont morts pour la France, morts en sauvant des Français. Ce sont les forces spéciales françaises de l'opération Barkhane, appuyées par nos services de renseignement, qui, avec le concours des forces armées burkinabées et un soutien américain, ont préparé et accompli cette mission qui a permis la libération de quatre otages. Patrick Pic et Laurent Lassimouyas, les deux Français qui avaient été enlevés le 1er mai dernier au nord du Bénin, ainsi qu'une ressortissante américaine et une ressortissante sud-coréenne. Au cours de l'assaut, quatre terroristes ont été tués. Cette nuit, quatre vies entre les mains de terroristes ont été sauvées grâce à l'immense courage, grâce à l'héroïsme de deux officiers mariniers des forces spéciales, le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello, n'ont pas tremblé, n'ont pas hésité une seconde face aux ravisseurs terroristes. Ils ont protégé les otages au prix de leur propre vie. Mes pensées vont aujourd'hui à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes et tout particulièrement au commando Hubert. Mes pensées vont aussi à la famille du guide béninois, assassiné lors de l'enlèvement des deux Français aujourd'hui libérés. Donner sa vie pour sauver celle des autres, c'est le sacrifice ultime d'un engagement sans réserve qui aujourd'hui nous dépasse. C'est une force morale incroyable, un don de soi sans limite, dont les militaires savent faire preuve lorsque les circonstances l'exigent. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello sont ces fils que la France est fière de compter parmi ses rangs. C'est aujourd'hui toute la nation qui s'incline devant leur bravoure, à jamais reconnaissante. Les armées paient le prix de leur vie, mais le message adressé aux bandits et aux terroristes est clair. Ceux qui s'attaquent à la France et aux Français savent que nous n'économiserons aucun effort pour les traquer, pour les trouver, pour les neutraliser. Jamais nous n'abandonnons nos concitoyens. Tout ce que nous savons, nous l'utilisons. Tout ce qui est en notre pouvoir, nous le faisons. La lutte contre le terrorisme est un combat sans répit et sans merci que nos forces mènent avec détermination et acharnement en coopération avec nos alliés et au premier rang desquels les États-Unis qui, cette nuit encore, ont été un précieux soutien. Je remercie les autorités béninoises de leur appui. Et je tiens également à souligner l'engagement à nos côtés pour cette opération des forces armées burkinabées, dont la formation est quotidiennement assurée par nos militaires français. Nous continuerons à apporter aux soldats des pays du Sahel le soutien dont ils ont besoin, afin qu'ils puissent assurer la sécurité de leur propre pays. Je vous remercie et je passe maintenant la parole au chef d'état-major des armées pour qu'il donne un certain nombre de précisions sur les opérations menées cette nuit.
Merci, Madame la Ministre. Je voudrais, pour présenter cette opération, revenir à un cadre général qui permettra de la resituer dans le temps. Et puis ensuite, je ferai un zoom plus particulier sur l'opération qui a eu lieu la nuit dernière. La resituer dans le temps, vous le savez, c'est tout d'abord dès l'annonce de la disparition des deux Français qui ont été pris en otage au nord Bénin, la mise en place par les forces françaises de l'opération Barkhane, par les moyens de la direction du renseignement militaire, avec l'appui de nos alliés américains et en étroite liaison avec les Burkinabés, la mise en place d'un ensemble de moyens qui permettent d'acquérir du renseignement, de le préciser. Et ces moyens sont par ailleurs très rapidement complétés par une opération discrète qui va être menée le 7 mai, soit 5 jours après l'enlèvement de ces deux otages, par les forces spéciales françaises qui vont pouvoir à cette occasion s'emparer d'un certain nombre d'éléments complémentaires qui permettront à nouveau de préciser le renseignement et d'établir, par des moyens que je ne préciserai pas ici, une traque très précise des ravisseurs qui, progressivement, sont en train, sur un espace qui représente plus de la moitié de la France, d'emmener les otages qu'ils ont faits au nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Mali. Les renseignements que nous continuons à avoir et à préciser nous font prendre la mesure de ce qu'il y a un risque, et même bien plus qu'un risque, l'organisation sans doute de la transmission de ces otages et du transfèrement de ces otages à une autre organisation terroriste qui agit au Mali et qui est la Katiba Massina, et avec évidemment le risque qu'une fois que ces otages auront été pris en compte par cette organisation terroriste malienne, ils deviennent absolument impossibles de réaliser une quelconque opération de libération des otages. Le renseignement est précisé. Tant que le mobile se déplace, il est impossible d'agir contre lui. Dans la journée d'avant-hier, l'amiral Isnar, le commandant des opérations spéciales, me fait part de la probabilité qu'à un moment ou un autre, cette progression des ravisseurs se stabilise, qu'il y ait une halte, et me dit que si cette halte se fait dans des conditions et dans une zone ou un secteur géographique favorable, il sera alors possible de monter une opération. Dans la journée d'hier, il me confirme dans l'après-midi d'hier que les ravisseurs ont, comme on s'y attendait, fait une halte, qu'ils sont encore en territoire burkinabé et que c'est sans doute la dernière opportunité qui se présente aux forces françaises de pouvoir monter une opération de récupération des otages et de neutralisation de leurs ravisseurs terroristes. Nous précisons cette opération. Je présente les conclusions de cette planification au président de la République qui la valide et je donne donc l'ordre hier soir à l'amiral Isnar de lancer cette opération. Je rencontre ensuite à la ministre et ce matin, nous avons eu les résultats de la libération de ces otages et, comme l'a dit Madame la ministre, de la mort de deux de nos hommes. L'opération elle-même, comment s'est-elle passée? C'est une opération, la ministre l'a dit, d'une très grande complexité, réglée comme de l'horlogerie extrêmement fine, qui consiste bien sûr, par anticipation, à mettre en place des moyens médicaux de l'avant, qui permettront soit de soigner nos blessés s'il y en a, soit de soigner les otages si c'est nécessaire. La mise en place de moyens logistiques qui permettront, sur des distances extrêmes, d'avoir des plots de ravitaillement, la mise en place de moyens hélicoptères qui permettront l'évacuation de nos effectifs et des otages une fois qu'ils auront été libérés, tout cela demandant une coordination extrêmement fine, et puis ensuite une mise en place des commandos et une infiltration de nuit jusqu'à arriver à proximité de l'objectif, qui se trouve sous forme d'un certain nombre d'abris, 4 abris. Ces objectifs sont en zone découverte et les commandos des forces spéciales se sont infiltrés en nuit noire sur 200 mètres dans un silence absolu malgré la présence d'une sentinelle qui veillait et qui ne les a pas détectés lors de leur approche. Ensuite, et je tiens à insister sur ce point, les commandos pénètrent dans les abris et pénètrent dans les abris évidemment sans ouvrir le feu. Effectivement, au moment où les commandos vont être détectés, ils sont à une dizaine de mètres des abris. Ils entendent les ravisseurs terroristes armer leurs armes à l'intérieur des abris. Ils décident donc de monter à l'assaut des objectifs, mais ils montent à l'assaut sans ouvrir le feu pour être certains de ne pas faire de pertes chez les otages, ni de pertes chez d'éventuels civils ou membres des familles des terroristes qui seraient présentes dans ce campement. C'est lors de cette pénétration dans deux de ces abris que les deux commandos marines, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, ont été tués à très courte distance par deux des ravisseurs. Voilà ce qu'on peut dire sur cette opération. Madame la ministre l'a dit, les ravisseurs qui tentaient de s'évader ont été abattus. Et les ravisseurs qui ensuite ont engagé le combat, 4 d'entre eux ont été tués. Cette opération, comme l'a dit Madame la ministre, s'est faite avec une coordination très fine avec les forces burkinabées qui participaient au soutien logistique de l'opération. Je ne rentrerai pas là non plus dans le détail. Elle est à mon avis remarquable non seulement par l'extrême sophistication du montage de l'opération, elle est remarquable aussi par la saisie d'opportunité qui a été faite, comme me disait Madame la ministre ce matin lors d'un échange que nous avons eu, à la fois sur la base d'un raisonnement extrêmement rigoureux, et d'une planification de l'opération très fine, mais en même temps avec l'audace qui devait absolument prévaloir parce que l'occasion se présentait maintenant et elle ne se serait sans doute pas représentée le lendemain ou le surlendemain. Voilà, je pense qu'on peut dire dans un premier temps. Je ne vais pas rajouter à l'émotion qu'a évoquée la ministre et que nous ressentons tous. La France a perdu deux de ses fils et nous perdons deux de nos frères. Voilà. C'est toujours très douloureux.
Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre aux questions.
Bonjour, ici Marc Dana, France Télévisions. Je voulais essayer donc d'avoir une confirmation en ce qui concerne l'identification du groupe de ravisseurs. Et également, il y a eu 4 ravisseurs morts. Combien étaient-ils au total ? Est-ce qu'il y a eu des prisonniers ? Et enfin, aviez-vous connaissance avant l'opération, j'imagine, des autres otages dans ces abris ? De la présence d'autres otages avant l'opération.
Je vais commencer et le chef d'état-major des armées complétera si besoin. Pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer sur l'identité précise des preneurs d'otages. L'analyse est en cours, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a deux mouvements terroristes principaux qui opèrent dans cette zone et qui sont affiliés pour l'un à Al-Qaïda et pour l'autre à l'État islamique. Donc, nous n'en savons pas plus pour l'instant. J'ai indiqué qu'il y avait eu 4 terroristes tués. À ma connaissance, il n'y a pas de prisonniers. Enfin, en ce qui concerne les deux otages, l'otage américain et l'otage sud-coréen, nous n'avions pas connaissance de leur présence. Et donc, c'est une opération, comme le dit le chef d'état-major des armées, c'est une opération d'opportunité, mais dans tous les sens du terme.
Je confirme ce que vient de dire Madame la Ministre. Il y avait 6 terroristes. 2 se sont enfuis, 4 ont été tués. Et nous n'avions effectivement pas connaissance des 2 otages, l'otage américaine et l'otage sud-coréenne. Je tiens à nouveau à insister sur le fait que ça rend d'autant plus remarquable la maîtrise du feu par les commandos qui cherchaient 2 otages. Voilà.
Est-ce qu'il fallait intervenir rapidement ?
Je crois que le chef d'état-major des armées a répondu. C'était la dernière opportunité, d'après les informations qui avaient été recueillies, pour pouvoir faire cette intervention en territoire burkinabé, sachant que si ces otages avaient été transférés sur le territoire malien, alors probablement l'exécution d'une opération de cette nature aurait été probablement trop risquée pour pouvoir être entreprise.
J'ajouterai à ce que dit Madame la Ministre, le fait qu'on a fait un effort, comme je vous l'ai expliqué, en remontant le tempo de cette opération, très important, de mise à disposition de moyens de nos alliés et de moyens de la force Barkhane depuis l'enlèvement de ces otages pour tracer précisément leur déplacement et se renseigner sur ce qui risquait de leur devenir, de leur arriver. Cet effort-là, c'est comme dans un enlèvement d'enfants. Il faut le marquer au début, parce que c'est au début qu'on peut produire le plus d'effets et avoir le plus d'informations. On n'aurait pas pu le maintenir et le contenir très longtemps. Ça a payé. Ces moyens, encore une fois, sont les moyens qui sont engagés dans l'opération Barkhane de manière générale et ils ne peuvent pas être détournés trop longtemps du reste des opérations. Il était donc important d'agir vite. Et par ailleurs, Madame la Ministre vient de répéter, je persiste à penser que nous avons pris la bonne décision en le faisant à ce moment-là. Après, ça aurait été trop tard.
Ah oui, Pierre Julien, RTL. Une précision tout au moins. Vous avez parlé de 2 autres terroristes. Ont-ils vraiment pu s'enfuir ou ont-ils été, comme on dit, neutralisés un peu plus tard? Et comment les forces spéciales ont-elles été, comment les commandos ont été repérés? Vous avez parlé d'une sentinelle. J'ai cru comprendre, c'est en entrant dans les abris qu'ils auraient été pris pour cible par les djihadistes.
Les commandos ont été repérés à 10 mètres de la cible par une sentinelle qui était devant l'abri où étaient détenus les otages. À partir de ce moment-là, ils sont passés dans un mode d'infiltration à un mode d'assaut, en tuant la sentinelle et en pénétrant dans les abris sans ouvrir le feu pour la raison que j'ai évoquée. Ensuite, il y a eu deux terroristes qui se sont enfuis. Ils n'ont pas été neutralisés. Les armées n'ont pas peur de dire qui elle neutralise et qui elle ne neutralise pas.
Général Anne Chaouin, Agence France-Presse, où se trouvent les otages actuellement? Par ailleurs, cette halte, est-ce qu'elle était déjà identifiée ou ça a été une halte d'opportunité de la part des ravisseurs sur la route du Mali? C'était un camp, c'était une base?
Elle était peut-être identifiée par les ravisseurs, mais pas par nous. Donc c'est bien le suivi précis et le traçage précis kilomètre après kilomètre, qui a permis d'observer qu'ils s'arrêtaient là et qu'ils allaient s'y arrêter durablement. Je ne sais pas où sont les otages actuellement. Je pense qu'il a été annoncé qu'ils devraient être demain à Paris.
Pour 3 d'entre eux.
Oui, bonjour, Nathalie Guibert du Monde. Est-ce que vous pouvez nous préciser si Amadou Koufa est le commanditaire de cet enlèvement, ou du moins du la réception des otages sur la partie malienne? Et est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les moyens quantitativement et qualitativement qui ont été déployés sur cette opération? Merci.
Je pense que sur le premier point, j'ai répondu. L'analyse est en cours. Le nom du terroriste que vous avez cité relève d'une des 2 organisations que j'ai moi-même citées. Donc, lorsque nous en saurons plus, naturellement, nous le ferons savoir. Pour ce qui concerne les moyens engagés,
je préfère ne pas m'étendre sur sur le niveau qualitatif et quantitatif. Sachez qu'il y avait des moyens d'aéromobilité, il y avait des moyens médicaux importants, y compris de chirurgie de l'avant, qui avaient été engagés depuis la France hier, pour le cas où nous aurions effectivement déclenché cette opération. Et puis, évidemment, un certain nombre d'autres moyens.
Ce qu'on peut peut-être dire, puisque nous l'avons déjà dit, pour le souligner, c'est que ce sont nos meilleurs éléments qui ont été engagés dans cette opération, puisque les forces spéciales qui ont réalisé cette opération, avec le soutien et le support non seulement des autres forces de Barkhane, mais comme nous l'avons dit, du soutien américain et burkinabé pour l'essentiel, sont entraînés en permanence pour pouvoir réaliser des opérations de très haute intensité ou de très grande complexité comme celle qui a eu lieu cette nuit.
Bonjour, Natasha Butler, Al Jazeera English. Est-ce que vous pourriez nous fournir d'autres détails sur le soutien des Américains? Vous avez déjà parlé de ça, mais il s'agit de quoi en détail ce soutien?
C'est un soutien qui est régulier et qui a pour cible principale le renseignement. Et ce n'est pas nouveau, c'est un soutien que nos amis américains nous procurent de façon régulière et constante. Dans cette opération, ou d'une façon plus générale, à nos côtés, dans le cadre de notre présence au Sahel.
Comme le dit Madame la Ministre, les Américains sont très reconnaissants à la France d'assumer la responsabilité principale de l'engagement d'un camp occidental qui souhaite aider l'Afrique à se stabiliser et aider cette région du Sahel à surmonter le terrorisme qui la ravage. Et donc, ils apportent une aide particulière parce qu'ils considèrent que, comme la France est celle qui assure la part principale du fardeau, cela vaut la peine de lui apporter des moyens techniques complémentaires. Ce sont des moyens qui, essentiellement, sont des moyens de renseignement.
Néanmoins, pour apporter une dernière précision, on peut dire que les forces américaines ne sont pas intervenues dans la libération à proprement parler de ces otages.
ABC News, est-ce qu'on en sait plus sur l'identité de l'otage américaine et ce qu'elle faisait dans les mains des ravisseurs et où elle est à l'heure actuelle et si elle va rencontrer le président samedi ou pas avec les autres otages?
Alors, comme je vous l'ai dit, nous savons peu de choses sur les deux autres otages qui ont été libérés à l'occasion de cette opération qui avait été lancée pour permettre la libération de nos deux ressortissants. Ce que l'on peut dire, c'est que les quatre otages sont en lieu sûr et que s'agissant de cette otage américaine, probablement, elle sera rapatriée indépendamment des trois autres.
Olivier Four de Radio France Internationale. Je voudrais savoir, vous avez évoqué un rôle de soutien logistique des Burkinabés. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par soutien logistique? Est-ce qu'on peut parler de renseignement humain, choses comme ça? Ils sont chez eux.
Ce que j'entends par là, c'est que quand vous faites une opération de cette ampleur-là, et au-delà du travail des commandos qui, en finale, sont ceux qui s'infiltrent et conduisent l'assaut, il faut imaginer l'extrême sophistication, encore une fois, de cette opération de manière générale, qui s'étend sur des distances considérables, qui nécessite de mettre des plots de ravitaillement, de mettre en place des moyens médicaux importants. Et que, par exemple, ces plots de ravitaillement peuvent faire l'objet d'un appui des Burkinabés, qu'il s'agisse d'assurer leur sécurité, de participer à leur alimentation, etc. Voilà. Donc c'est un soutien de nature logistique, mais un peu plus.
Sur l'article... Je voulais m'excuser.
Non, je voulais simplement compléter en disant que la coopération avec le Burkina Faso a pris une ampleur inédite au cours des derniers mois. D'abord parce que la situation sécuritaire au Burkina Faso, vous l'avez tous relevé dans vos articles, s'est aggravée au cours des derniers mois. Le Burkina Faso a pris un certain nombre de décisions, un remaniement important de l'organisation et de la hiérarchie militaire. Et le Burkina Faso a également conclu un accord de coopération militaire avec la France, ce qui nous permet d'avoir un cadre juridique pour conduire des opérations de ce type en territoire burkinabé. Et naturellement, cette opération a été conduite avec non seulement l'autorisation du gouvernement burkinabé, mais également son plein soutien, comme cela a été dit. Et je voudrais également ajouter, pour les avoir vus moi-même il y a quelques mois, les forces armées burkinabées bénéficient non seulement d'une formation de la part de Barkhane, mais également d'une formation de la part de nos forces spéciales. C'est donc une coopération riche.
Oui, bonjour, Alexandre Sulzer du Parisien. Petite question, vous avez dit que on sait peu de choses sur les deux autres otages. Est-ce que ça signifie que vous n'aviez même pas connaissance que deux otages de ressortissants coréens et américains étaient enlevés sur zone? Est-ce que les diplomaties de ces deux pays étaient elles-mêmes informées? Et par ailleurs, est-ce que vous pouvez préciser combien de soldats des forces spéciales français étaient engagés dans l'opération au moment de l'assaut? Merci.
Sur les deux autres otages, comme je l'ai dit, personne n'avait connaissance de leur présence. Nous n'avions pas connaissance du fait que, aux côtés de nos deux otages, de nos deux ressortissants, il pouvait y en avoir d'autres, même si des précautions ont été prises au cas où. Et les contacts que nous avons eus depuis quelques heures avec les États-Unis et la Corée du Sud montre que probablement ces pays-là n'avaient pas nécessairement conscience de la présence de ces deux ressortissantes en territoire burkinabé.
A priori, elles étaient otages depuis 28 jours. Et il y avait plus d'une vingtaine de commandos qui ont été engagés.
Bonjour, Jean-Sébastien Soldaini, la Radio Europe 1. Vous avez évoqué la Katiba Massina, c'est-à-dire que vous considérez que l'État islamique est, vous privilégiez le fait que l'État islamique est derrière cet enlèvement plus qu'Al-Qaïda, et est-ce que vous craignez que l'État islamique prenne encore plus d'ampleur dans cette région?
Ce n'est pas moi qui ai mentionné la Katiba Massima, et j'ai dit que l'analyse était en cours et qu'il y avait deux organisations qui exerçaient leurs activités terroristes dans cette région du Sahel. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire s'il s'agit plutôt de l'une ou plutôt de l'autre.
Est-ce que le nord du Bénin est une zone à éviter pour les ressortissants étrangers, et notamment français?
Absolument. C'est ce qu'indique le site du Quai d'Orsay. Et donc, on ne peut qu'inviter tous ceux qui ont un projet de voyage à consulter régulièrement ce site.
Alexis Tessier pour LCI. Est-ce que la France et les militaires français doivent rester en première ligne dans cette zone?
C'est une question que l'on se pose régulièrement, mais à laquelle nous avons répondu de façon constante depuis maintenant plusieurs mois, puisque l'opération Barkhane, comme vous le savez, a une double vocation. D'une part, lutter contre le terrorisme dans cette zone du Sahel, parce que le terrorisme qui s'y fait jour peut avoir des impacts pour la sécurité des Français et de la France, et d'autre part, soutenir les forces armées locales pour leur permettre peu à peu d'acquérir la capacité d'assurer leur propre sécurité. Ce sont ces deux missions que nous continuons de conduire. Nous avons toujours dit que la France ne serait pas éternelle au Sahel, mais nous considérons que pour l'instant, nous devons poursuivre nos efforts dans ces deux directions.
En complément de ce que dit la ministre, comme elle l'a dit, la question est posée régulièrement. Régulièrement, la décision politique est de rester engagée et que la France assume ses responsabilités. Et aucun de nos soldats n'a le moindre doute sur le fait que son combat est juste.
S'il n'y a pas d'autres questions, une dernière.
Merci beaucoup. Vous avez dit que les forces spéciales ont progressé deux nuits en silence sur 200 mètres. Comment était-il arrivé jusqu'au point de départ de cette progression? Et est-ce que ça veut dire qu'ils ont traqué les ravisseurs physiquement sur le terrain et non pas seulement à distance, qu'ils étaient réellement à leur suite?
Chère madame, je ne vous dirai pas tout.
Non, mais le plus possible.
J'ai dit qu'ils avaient traversé un découvert de 200 mètres, pour bien indiquer qu'il n'y avait aucun masque entre l'objectif et que ce qui est en soi une sorte de prouesse, c'est d'être capable de progresser par nuit noire sans se faire entendre d'une sentinelle qui est là jusqu'à s'approcher d'elle à 10 mètres. Ce qui prouve le degré de compétence de nos soldats. Voilà. Pour le reste, je ne vous répondrai pas.
Merci beaucoup. Merci à tous.